Mao et le clan des Louves, une histoire d'Envolée Contée.
Ouyez, ouyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux. Par-delà les murailles de la ville, s'étend une forêt. Et comme toutes les forêts, elle est peuplée d'ombres, de secrets et de créatures mystérieuses. Mais n'ayez crainte, car à cœur vaillant, rien d'impossible.
Mao, Mao, allez, debout!
Fait Aubertin de sa grosse voix bourrue. Mao secoue ses boucles brunes et tire sur son drap de laine. Le jour est à peine levé. Elle entend le bruit des charrettes qui vont et viennent dans la cour du château. Dans l'écurie juste à côté, Artémis s'ébroue. Mao reconnaîtrait entre mille le bruit de ses sabots sur la terre. Un peu plus loin, elle entend Camélia qui piaffe. Depuis qu'elle a perdu ses parents il y a des années, Mao passe toutes ses journées et toutes ses nuits dans les écuries. C'est Aubertin, le vieux palefrenier du château, qui l'a recueillie. Et le palefrenier et ses chevaux sont devenus sa seule famille.
Hé, hey, Mao, j'ai entendu une drôle de rumeur ce matin dans les cuisines.
Murmure Aubertin en se penchant au-dessus d'elle et en lui glissant une miche de pain dans la main. Mao se relève intrigué et regarde le palefrenier.
Ben vas-y, raconte.
Tu sais, aujourd'hui, c'est la fête des palefrois au village.
Bien sûr que je le sais. Voilà des mois que nous préparons les chevaux du vicomte pour cette fête.
Eh bien, figure-toi qu'un tournoi est organisé pour les écuyers, sur le pré, juste devant les murailles. Et le gagnant remportera... Azur.
Azur? Le poulain? Le petit de Camélia et d'Artémis?
Aubertin hoche la tête.
Eh oui! Il est en âge d'être dressé et il fera un merveilleux destrier, c'est certain.
Mao sent comme un petit glaçon qui tombe dans sa gorge. Elle était là quand Azur est né. Elle a vu ses yeux clairs comme un matin d'été s'ouvrir pour la première fois.
Oui, c'est sûr! Il est déjà si agile et rapide.
Pendant un instant, elle s'imagine à côté du poulain. Le faire marcher au pas, trotter, galoper, sauter d'un tronc d'arbre. Elle l'imagine grandir, ses muscles saillants sous sa robe noire. Pour sûr, il deviendrait un magnifique cheval. Son cheval. Mais elle secoue la tête. C'est impossible. Et pourtant, Mao a tout d'une écuyère. Elle s'est montée à cheval à la perfection, tirée à l'arc et à l'arbalète, lancée le javelot, et Aubertin lui a même appris à se battre à l'épée. Mais pour participer au tournoi des écuyers, il faut être un garçon. Elle fourre la miche de pain dans sa poche et attrape un seau. C'est l'heure de laver les écuries. Alors qu'elle plonge son seau dans le puits de la cour, elle entend un doux sifflement. La vicomtesse de Volver se tient devant l'écurie de Camélia, et elle lui flatte l'encolure. Mao s'approche et la salue d'une révérence maladroite.
Votre seigneurie souhaite-t-elle que je selle et que je bride sa jument?
La vicomtesse lui sourit et elle pose sa main sur l'épaule de Mao pour l'inviter à se redresser. Mao regarde cette main si blanche posée sur son épaule. Pas la moindre trace de terre sous les ongles. Pas une seule griffure. On dirait du marbre.
Non, je te remercie. Tu dois déjà avoir fort à faire avec la fête et le tournoi des écuyers.
Oui, cela va être une très belle fête. Quelle chance pour les écuyers de pouvoir participer à ce tournoi. J'aimerais tellement pouvoir y prendre part moi aussi.
S'exclame Mao. Mais aussitôt, elle se mord la lèvre. Que va penser la vicomtesse aux mains si blanches d'une petite fille qui rêve d'être écuyère? La vicomtesse la regarde et Mao croit deviner une petite étincelle dans ses yeux. Elle se penche vers Mao et murmure.
Moi aussi, j'aimerais être quelqu'un d'autre et galoper librement au milieu des champs, sans ces stupides robes bien trop longues et ces rubans qui s'en mêlent.
Mao sent une douce chaleur qui l'enveloppe, comme si les mots de la vicomtesse étaient magiques. Celle-ci se relève et ajoute avec un clin d'œil.
Il suffit de peu de choses parfois pour devenir une autre personne.
Puis elle s'éloigne de son pas léger. Mao sent tout à coup ses joues qui la brûlent. Elle lâche son seau et se précipite dans l'écurie. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle attache ses cheveux très serrés avec un morceau de corde et enfile un casque aux armoiries tellement usées qu'elles sont devenues illisibles. Il est un peu grand pour elle, mais peu importe. Elle chausse des bottes et une armure en cuir pour se protéger. Puis elle sort de l'écurie et renverse le seau d'eau. Dans la flaque qui se forme à ses pieds, elle voit le reflet d'un jeune écuyer un peu frêle. Ses cheveux disparaissent complètement sous son casque et sa cuirasse lui donne l'allure d'un garçon. Elle prend sa voix la plus grave.
« Vous allez voir ce que vous allez voir, bande de coquerets !»
Puis, elle se dirige vers la muraille d'un pas décidé. Le pont-levis est abaissé, la lourde porte est ouverte. Pour la première fois depuis qu'elle est toute petite, elle sort de l'enceinte du château. Devant elle, s'étend un grand pré à l'orée de la forêt. Mao a entendu tellement d'histoires sur cette forêt depuis qu'elle est petite. Des histoires de sorcières cruelles et de loups assoiffés de sang. Mais elle n'y a jamais vraiment cru. Pourtant, elle sait que les personnes qui vivent au village s'y rendent parfois pour les combattre. Elle détourne les yeux de la forêt et se tourne vers le pré où va se dérouler le tournoi. Il y a une piste, des poteaux et des cibles. Des chevaux sont attachés à une barrière et des écuyers s'entraînent à lancer leurs javelots avant le tournoi. Ils s'arrêtent pour la saluer. Mao bombe le torse et les salue à son tour d'un geste de la main. Elle passe devant une estrade sur laquelle trônent deux fauteuils majestueux. Des gens viennent de partout pour assister au tournoi. Le pré se remplit peu à peu et Mao sent sa gorge se serrer. Que se passera-t-il si quelqu'un la reconnaît? Et si elle s'était surestimée et que les épreuves étaient trop difficiles? Ou que les écuyers étaient plus adroits et plus forts qu'elle? Mais elle respire un grand coup et ferme les yeux. Elle sait qu'elle peut y arriver. Sa main ne tremble plus. Soudain, des clairons se mettent à jouer et les écuyers se rangent tous sur le pré en face de l'estrade. Mao les rejoint à la hâte.
Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux! Voici venir nos magnanimes seigneurs, le vicomte de Volvert et la vicomtesse!
S'exclame un page en entrant dans le pré. Derrière lui, une file de chevaliers escorte le vicomte et la vicomtesse. Le couple prend place dans les fauteuils. Les écuyers s'avancent pour les saluer en posant un genou à terre. Mao sent sur elle le regard de la vicomtesse et il lui donne de la force. Les clairons sonnent une deuxième fois et le tournoi commence. Chaque écuyer se voit attribuer un cheval, un arc et un javelot. Mao plonge ses yeux dans ceux de l'animal qu'on lui a donné. C'est une vieille jument à la robe grise et aux yeux noirs. Elle sent qu'elle est un peu craintive. Son sabot gratte nerveusement la terre.
« Ça va aller, on va faire de notre mieux. »
lui murmure Mao en posant sa main sur son encolure. Aussitôt, la jument s'apaise. Elle baisse la tête et son museau touche la joue de Mao. Celle-ci saute sur son dos avec agilité et glisse ses pieds dans les étriers.
« Allez ma grande, on va leur montrer de quoi on est capable. »
Le tournoi commence et les épreuves s'enchaînent. Mao est plus fine et légère que les autres écuyers, et elle n'a aucun mal à gagner les épreuves de rapidité et de saut d'obstacles. La jument se laisse guider sans qu'elle n'ait besoin de crier ou de lui donner des coups de talon. Un murmure parcourt la foule. Mais qui est donc cet écuyer si habile? Arrive l'épreuve du lancer de javelot. Mao saisit sa lance et s'élance au galop sur sa jument. Mais les autres écuyers sont bien déterminés à ne pas la laisser gagner. Plutôt que de s'en concentrer sur la cible, ils barrent la route à Mao. Sa jument se cambre, mais Mao tient fermement la bride et elle repousse de son javelot les autres cavaliers. Puis elle repart au galop et lance le javelot en plein cœur de la cible. Tout le village l'applaudit. Et c'est ainsi toute la journée. Mao enchaîne les épreuves avec brio et impressionne le public par son adresse. Tous se mettent à l'encourager et à l'acclamer à chaque nouvelle victoire.
Allez, petit écuyer, montre-leur à ces marouf.
Pas de sang-bleu, il est si rapide.
Mao se sent pousser des ailes et redouble d'agilité. Le soleil descend sur les grands peupliers qui bordent le pré et une nuée d'applaudissements retentit. Mao sent son cœur qui bat à tout rompre dans sa poitrine.
On a gagné ! On a gagné !
souffle-t-elle à la jument. Elle s'approche de l'estrade. Le vicomte se lève.
Écuyer, l'assistance est unanime. Et c'est avec moult admiration que je te déclare vainqueur de ce tournoi. Qu'on m'amène Azur afin que je puisse offrir à ce courageux écuyer sa récompense.
Mao se retourne et voit le jeune poulain qui piaffe derrière elle. Une immense vague de joie lui remplit le cœur. Elle s'incline devant le vicomte et sent son casque glisser devant ses yeux. Vite, elle essaye de le retenir, mais c'est trop tard. Il tombe à ses pieds, entraînant ses cheveux qui ruissellent sur ses épaules. Un murmure de consternation se répand autour d'elle.
Mais c'est une fille!
À la félonne! Elle nous a trompés!
Sorcière!
Sorcière!
Mao se redresse. Le vicomte a les sourcils froncés et la regarde avec dédain. Elle aimerait leur crier à tous que c'est injuste et qu'elle a mérité sa victoire. Mais elle sait qu'elle risque sa vie. Les villageois se rapprochent, l'air menaçant. S'ils l'attrapent, elle finira dans les cachots du château ou pire. Son regard croise celui de la vicomtesse. Celle-ci lui fait discrètement signe de s'enfuir, puis elle s'exclame en tombant de son fauteuil.
Ah ! Je me sens défaillir ! Aidez-moi, monseigneur !
Mao comprend qu'elle fait diversion et elle court de toutes ses forces en direction de la forêt. Certains des écuyers essayent de la poursuivre, mais elle est beaucoup plus rapide et elle s'enfonce dans les bois. Elle marche seule un moment. Elle sait qu'elle ne peut pas faire demi-tour et rentrer au château. Elle serait reconnue. Le soleil a complètement disparu derrière les cimes et une petite brume du soir s'enroule autour des arbres. Mao marche au milieu des ombres. Les bruits de la nuit lui semblent étrangement familiers, comme une vieille berceuse qu'elle aurait oubliée. Mais soudain, elle se fige. À quelques pas d'elle, une petite ombre aux grandes oreilles l'observe. Mao n'ose plus bouger. La forêt autour d'elle semble s'être figée elle aussi. La lune s'est levée et ses rayons pâles se glissent entre les feuilles des arbres. Elle réalise tout à coup qu'elle est seule, perdue dans la forêt. Son déguisement d'écuyer, le tournoi, sa fuite, tout s'est enchaîné si vite. Mais le plus étrange, c'est qu'elle n'a pas vraiment peur. Elle se sent accueillie par la forêt, comme dans un cocon. Mao plisse les yeux. Devant elle, deux petites taches orangées brillent sous le buisson et suivent chacun de ses gestes.
Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Un renard ? Non, ses oreilles sont trop grandes. Un chien errant ? Avec des yeux de cette couleur, ça m'étonnerait.
Mao se rapproche du buisson et s'accroupit tout doucement pour se mettre à la hauteur de l'animal. Puis elle tend sa main dans sa direction. Un petit grognement lui répond.
N'aie pas peur, je ne veux pas te faire de mal,
chuchote Mao. Les deux yeux jaunes se plissent et des crocs blancs apparaissent sous des petites babines. Mao recule. Aussitôt, une boule de poils marron et grise sort du buisson et se glisse entre deux arbres, la queue touffue et les oreilles bien droites. Mao en est certaine.
Morbleu, c'est un louveteau.
Mais à peine a-t-elle le temps de s'en étonner que l'animal a disparu derrière de grosses fougères.
Bon, j'espère seulement que ses parents ne traînent pas dans le coin.
Pense Mao, pas très rassurée. Elle se rappelle avec inquiétude les histoires qu'elle a entendues à la veillée du château sur des loups féroces qui ne faisaient qu'une bouchée des enfants perdus dans la forêt. Mais à voir ce petit louveteau tout apeuré sous son buisson, elle a du mal à y croire. Elle récite quand même une prière qu'on lui a prise pour éloigner les loups.
Loup, louve et louvinet, je vous conjure et je vous charme pour que vous ne me fassiez aucun mal.
Elle s'assoit sur le tapis de mousse au pied d'un frêne et elle écoute les bruits de la nuit. Le coassement de la grenouille rebondit à son oreille et la berce. Un petit vent agite les feuilles au-dessus de sa tête. Mais soudain, un hurlement retentit. Mao bondit sur ses pieds. Sans réfléchir, elle court en direction du cri. Des branches et des ronces s'accrochent à ses vêtements, mais elle s'en moque et continue sa course. Elle s'arrête de justesse au bord d'un trou, juste à côté d'un arbre. Elle se penche au-dessus du trou et plisse les yeux. Tout au fond, il y a deux yeux jaunes apeurés qui la regardent. Le louveteau ! Mao comprend qu'il est tombé dans un piège tendu par les villageois. Un trou recouvert de feuilles et de branchages. En voulant aller se frotter contre l'arbre pour marquer leur territoire, les loups ne se méfient pas et tombent dans le piège.
« Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là !»
murmure Mao. Elle regarde autour d'elle et aperçoit une épaisse branche de lierre qui s'enroule autour d'un arbre. Elle l'arrache et l'attache solidement au tronc de l'arbre. Puis, elle jette l'extrémité de la branche dans le trou et s'y accroche pour descendre. Mais à peine pose-t-elle le pied à terre que quelque chose lui perce le pied. La douleur lui coupe le souffle. Mao lâche la branche et s'effondre au fond du trou. Elle regarde son pied. Une tache rouge s'étend sur sa botte. Elle saigne. Elle remarque alors un bâton taillé en pointe qui se dresse au fond du trou.
« Je me suis blessée sur ce pied !»
Elle tire sur sa botte et regarde son pied. Une profonde entaille remonte entre deux de ses orteils. Elle déchire un morceau de sa chemise et le presse contre la blessure pour que le sang arrête de couler. Puis elle remet sa botte en grimaçant. Son regard croise celui du louveteau qui l'observe, tapis au fond du trou. Mao se sent elle aussi prise au piège, sans défense, comme ce petit animal. Elle maudit la cruauté des gens qui ont installé ce piège et placé un pieu acéré tout au fond.
« Ah, les gueux ! Ils sont vraiment sans cœur !»
Le louveteau s'approche de Mao et elle en profite pour l'observer de plus près. Il est jeune, 4 ou 5 mois tout au plus. Et il a une drôle de tache blanche entre les deux yeux qui ressemble à un trèfle.
« Ta petite tache t'a porté chance, on dirait. Tu n'as pas l'air d'être blessé. Allez, je te créant que je vais nous sortir de là !»
dit-elle en attrapant le petit loup dans ses bras. Celui-ci se débat un peu, mais il finit par se laisser porter. Mao le hisse sur son épaule.
« Accroche-toi !»
Mao s'accroche à la branche de toutes ses forces. Sa blessure la fait souffrir. Elle serre les dents. Elle enroule sa jambe à la corde et tire sur ses bras. Le poids du louveteau sur son épaule ne lui simplifie pas la tâche. Mais hors de question de le laisser au fond du piège. Elle grimpe centimètre par centimètre et se répète.
« À cœur vaillant, rien d'impossible. À cœur vaillant, rien d'impossible. »
Elle redouble d'efforts et se hisse sur le bord du trou. Le louveteau saute de son épaule et gambade autour de l'arbre, puis il disparaît derrière un buisson. Mao se couche sur le sol. Elle a la tête qui tourne. Elle attrape dans sa poche la miche de pain qu'Aubertin le palefrenier lui a donnée ce matin et croque dedans. Et dire qu'il y a à peine quelques heures, elle gagnait le tournoi des écuyers. Cela lui paraît une autre vie. La voilà perdue et blessée dans la forêt. Elle lève la tête et aperçoit une étoile qui scintille entre deux branches.
« S'il te plaît, petite étoile, viens à moi en aide !»
murmure Mao avant de tomber dans un léger sommeil. Les heures passent, mais elles lui semblent des années. Mao flotte dans un demi-sommeil peuplé d'ombres et de bruissements. Un petit frémissement près de son oreille la réveille. Il fait encore nuit. Elle aimerait se redresser, mais elle se sent trop faible. Elle tourne la tête. À quelques pas d'elle, il y a une petite patte recouverte d'une épaisse fourrure grise. Mao avale sa salive et lève les yeux. Une petite langue toute chaude et humide vient lui lécher la joue.
« Ah, tu es revenu, toi !»
sourit Mao. Le louveteau jappe et se retourne. Mao aperçoit alors la silhouette d'un gros animal près de l'arbre. Et puis d'un autre à côté du buisson. Et encore d'un autre assis un peu plus loin. Mao est entouré par les loups.
« Et tu n'es pas venu seul !»
Une louve s'approche et renifle son pied blessé.
Elle doit sentir l'odeur du sang,
pense Mao. La louve tire sur la botte doucement avec ses dents. Mao retient son souffle. L'animal se met alors à lécher la blessure. Mao se redresse lentement et plonge ses yeux dans ceux de la louve. Le regard d'or de l'animal l'enveloppe et Mao se sent en sécurité. Sa blessure est comme anesthésiée. Une autre louve s'approche de Mao et lui renifle les cheveux. Puis une troisième vient se frotter à son bras. Le louveteau saute sur les genoux de Mao et lui mordit la main. Elle se laisse faire. La louve qui lui lèche sa blessure se redresse et jappe en direction des autres. Mao comprend que c'est elle la chef de la meute. Et c'est sans doute aussi la mère du louveteau. La louve lui pousse le coude du bout du museau et Mao s'appuie sur elle pour se relever. Elle parvient à se mettre debout mais son pied lui fait encore très mal et elle ne peut pas le poser au sol. Elle regarde par terre et aperçoit un bâton. Mao fait un signe en direction de la louve. Celle-ci la regarde et doucement, elle se penche, prend le bâton entre ses dents et le donne à Mao.
Fistre, elle me comprend si facilement.
Mao saisit le bâton et avance en boitillant et en s'appuyant sur la louve. Elles marchent un moment dans la forêt et arrivent près d'une rivière. Le jour se lève et jette ses reflets roses dans le cours de l'eau. Mao s'assoit sur une pierre et trempe son pied dans le courant. L'eau fraîche lui fait du bien. Elle se débarbouille et boit aussi de grandes gorgées. Les louves aussi se désaltèrent dans la rivière. Mao ramasse un peu de boue argileuse sur le bord de l'eau et l'applique sur sa blessure. C'est ainsi qu'Aubertin soignait les éraflures de ses chevaux. Elle espère que ça l'aidera à cicatriser. Le louveteau vient se frotter à elle.
Finalement, tu m'as porté chance à moi aussi. On dirait que j'ai trouvé une nouvelle famille grâce à toi. Je vais t'appeler Trèfle. Et désormais, nous serons frères et sœurs.
Le louveteau plonge ses yeux dans les siens. Mao jurerait qu'il lui sourit. Petit museau tiède vient se poser sur la joue de Mao. Elle ouvre un œil et tend la main en direction du museau.
« Ça va, Trèfle ?»
murmure-t-elle en passant ses doigts dans l'épaisse fourrure du jeune loup. Trèfle mordit affectueusement ses doigts et lui répond par un grognement. Mao se relève. Dans la grotte autour d'elle, la meute de louves et de loups se réveille doucement. Une louve se rapproche d'elle et lui lèche la main. Mao baisse la tête en signe de respect. Cette louve, c'est Lune, la chef de la meute. Avec Pluie, ils forment le couple dominant. Ce sont eux qui dirigent la meute. Le couple décide de tout et chacun des 8 autres loups et louves leur obéit à la griffe et à l'œil. Voilà plusieurs semaines que Mao vit parmi la meute. Sa blessure a guéri et elle ne garde plus qu'une cicatrice sur son pied. Les loups se sont occupés d'elle comme de l'une des leurs. Ils lui ont tenu chaud pendant les nuits fraîches avec leur épaisse fourrure. Elle a passé beaucoup de temps à observer chacun des membres et la façon dont les loups se comportent et communiquent. La vie de la meute tourne autour des chasses et de l'élevage des petits. Trèfle et ses 2 sœurs ont bien grandi et ne sont plus des petits louveteaux. Ils participent désormais aux jeux et aux chasses et se plient aux règles de la meute. Ils lèchent souvent le museau de Lune et de Pluie en signe de respect. Le jour s'éteint doucement et le crépuscule glisse d'arbre en arbre pour s'étendre dans chaque recoin de la forêt. Mao cligne des yeux. Les loups chassent au coucher du soleil, et leur vue dans l'obscurité est bien meilleure que la sienne. Mais au fil des jours, ses yeux se sont adaptés à la pâle lueur de la lune, et elle arrive désormais à se repérer dans la forêt à la nuit tombée. Il faut dire qu'elle connaît maintenant très bien cette partie de la forêt. Chaque arbre, chaque buisson, elle sait où poser les pieds. Pluie sort de la grotte et se lèche la patte. Il pointe son long museau vers le ciel et un long hurlement sort de sa gueule. Mao pose ses 2 mains autour de sa bouche et hurle à son tour. Toute la meute s'y met et les cris résonnent au plus profond de la forêt. Mao aime que les loups chassent tous ensemble. Peu importe qu'il soit mâle ou femelle, chacun a sa place dans la meute et participe aux chasses et aux jeux.
Allons-y, que la chasse commence !
S'écrie Mao en empoignant sa lance. Elle l'a fabriquée avec un caillou acéré et elle lui permet de prendre part à la chasse. Les louves et les loups se mettent à avancer en direction de la rivière. Lune et Pluie trottent à l'avant de la meute. Mao sait aussi pourquoi Lune et Pluie ont choisi de se diriger vers la rivière. À cette heure, les animaux de la forêt viennent s'y abreuver avant la nuit. Soudain, au détour d'un buisson, juste sous un arbre, elle aperçoit un morceau de gibier accroché à une corde. Elle fait claquer sa langue, et aussitôt, les loups s'arrêtent.
C'est une patte de cerf, et ça m'a tout l'air d'être un piège. Ah, les maroufles! Ils ont cru nous avoir, mais on est bien plus malins.
La meute de loups lui répond par un grognement. Elle s'approche du morceau de viande et le détache prudemment avec la pointe de sa lance. La corde forme un cercle et Mao sait ce que ça signifie. C'est un piège à coller. Un loup affamé, reniflant l'odeur du gibier, passerait sa tête dans le cercle pour attraper la patte du cerf et aussitôt le nœud se serrerait autour de son cou. Mao jette la viande en direction de Lune et de Pluie et ces derniers n'en font qu'une bouchée. Les autres devront attendre la chasse pour manger. C'est la règle. Mao grave du bout de sa lance une tête de loup sur l'arbre. C'est devenu son signe. Les loups de la meute marquent leur territoire en urinant sur les arbres. Elle grave des têtes de loup dans le bois ou sur la pierre. La meute reprend sa route et s'approche du courant. Lune s'arrête, les oreilles dressées. Mao tend l'oreille, mais elle sait que les loups et les louves entendent beaucoup plus de choses qu'elle. Trèfle vient frotter sa truffe sur le bout de son nez et Mao comprend.
Plusieurs animaux sont en train de boire dans la rivière.
La meute avance, tapis sur le sol. L'automne a semé ses feuilles mortes partout et le moindre craquement de feuilles pourrait faire fuir leur proie. Mao avance d'un pas de plume. Cachée derrière un arbrisseau, elle aperçoit une famille de sangliers qui est en train de boire dans la rivière. Mao se fait la plus petite possible et pointe sa lance dans la direction du plus gros sanglier. D'un geste vif et précis, elle la jette. La pierre aiguisée fend l'air, mais le sanglier l'entend. Il fait un bond de côté et l'évite. Une fraction de seconde. Le temps est comme suspendu au-dessus du torrent. Puis Lune et Pluie se jettent sur les sangliers. Ceux-ci grognent et se dispersent dans les buissons alentours. La traque commence. Les loups sont plus rapides, mais ils doivent faire attention aux défenses acérées des sangliers. Trèfle et ses sœurs attrapent deux jeunes sangliers, tandis que Pluie et Lune se jettent sur le plus gros. D'un coup de lance, Mao s'occupe du dernier marcassin. Seule l'allée parvient à s'enfuir. Un bref hurlement, et le dîner est prêt. Les loups se mettent à manger. D'abord Lune et Pluie, et ensuite le reste de la meute. Mao attend patiemment son tour, puis elle découpe un beau morceau de viande qu'elle fourre dans sa besace. De retour à la grotte, elle le fera cuire dans les braises avec les champignons et les racines qu'elle a ramassées hier. La meute rassasiée se repose un moment avant de retourner à la grotte. Trèfle mordit joyeusement les oreilles d'une de ses sœurs et Mao lui gratte l'échine. Mais alors que le clan s'apprête à quitter la rivière, Lune dresse les oreilles et tourne la tête en direction d'un grand saule qui borde le courant. Mao s'approche de l'arbre et lève la tête. Perché sur la plus haute branche, un garçon aux longs cheveux flamboyants les observe. Mao se met à gronder et les autres loups l'imitent. Elle agite sa lance en direction du garçon.
Palsambleu, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu es venu nous espionner, nous piéger, nous chasser? Tu viens du village? Ce sont ces vils chasseurs qui t'envoient, hein? Réponds, le gueux!
Le garçon effrayé se met à bafouiller.
Non, non, pas du tout. Je me suis perdu dans la forêt. Mais je ne viens pas du village, non. Je viens de la clairière.
De la clairière? Quelle clairière?
Ben, la clairière aux sorcières.
Des sorcières? Par la barbe de Saint-Eustache, quelle chanson me chantes-tu donc là?
Alors, déjà, je ne connais pas Monsieur Eustache. Et puis, ce ne sont pas des balivernes. J'habite la clairière aux sorcières avec toutes les sorcières de la forêt. Mais je me suis perdue en remontant la rivière et en cherchant de l'érysimum. C'est une plante magique.
Mao se gratte la tête. Ce garçon l'intrigue. Elle fait signe au loup de s'écarter pour le laisser descendre de l'arbre.
Merci.
fait le garçon en se laissant glisser du tronc.
Je m'appelle Leslin. Et toi ?
Mao. Et tu vis avec des sorcières pour de vrai ?
Oui. Mais ce sont juste des femmes qui ont été chassées ou qui se sont enfuies du village. Elles ne jettent pas de sorts. Mais elles connaissent toutes sortes de plantes et de potions.
Et tu n'as pas peur ?
Regarde-toi, tu es entouré de loups. À ton avis, c'est qui les plus dangereux ?
Mais les loups ne sont pas dangereux. Ils sont très affectueux.
Ah bon ? Même le gros là-bas qui me regarde en retroussant ses babines, parce qu'il me fiche une sacrée frousse.
C'est lui. Toutes les personnes qu'il voit veulent sa peau et le chassent. C'est lui qui a peur de toi. Moi, c'est différent. Je fais partie de la meute maintenant. Les loups m'ont adopté. Viens, asseyons-nous.
Mao se retourne vers la meute et s'assoit sur le sol pour leur montrer qu'il n'y a pas de danger. Puis, elle échange quelques grognements avec l'une et elle lui lèche le museau. Les loups quittent la clairière. Leslin est fasciné.
Mais, tu leur parles ? Tu les comprends ?
Mao hoche la tête.
Viens, essayons de te ramener chez toi. Si nous descendons la rivière, nous allons bien finir par la trouver, cette clairière.
Les deux enfants s'enfoncent dans la nuit. Mao marche devant de son pas alerte de louve et Leslin se glisse derrière elle en fredonnant une chanson de sorcière. Les étoiles qui se reflètent dans la rivière les guident de leur lumière argentée. Mao et Leslin marchent dans le silence de la lune. Mao est bien décidé à raccompagner Leslin dans sa clairière aux sorcières. Avec elle, il ne risque pas d'être attaqué par les loups. Et elle est aussi un peu intriguée par cette histoire de sorcière. En descendant petit à petit le long de la rivière, Mao a un étrange sentiment. Elle ne s'est jamais aventurée aussi bas, car le territoire de la meute s'arrête en amont. Et pourtant, elle a l'impression de connaître cette partie de la forêt. Un gros chêne centenaire aux branches noueuses marque la limite du territoire de Lune et de Pluie et du reste du clan. Mao s'arrête et pose son nez sur l'écorce de l'arbre. Lune est passée par là, il n'y a pas si longtemps. Mais il y a aussi une autre odeur. Elle sait que d'autres meutes de loups vivent dans la forêt. Et là où s'arrête le territoire de la sienne, commence sans doute celui d'une autre.
Il va falloir se faire discret,
pense-t-elle. Elle grave une petite tête de loup sur le tronc. Leslin l'observe. Mao voit à son regard qu'il se demande ce qu'elle est en train de faire.
C'est ma façon à moi de marquer mon territoire.
Leslin hoche la tête.
Et les loups, comment font-ils ?
Bah, à ton avis, petit coq-bert. Les loups urinent sur les arbres, pardi. Mais moi, je n'allais pas faire pipi sur tous les troncs de cette forêt.
Leslin s'approche à son tour du tronc et le renifle.
Berk, ça pue !
Mao esquisse un sourire. Devant eux, le lit de la rivière s'agrandit. Mao s'arrête sur un rocher qui surplombe le courant. Et tout à coup, elle est prise d'un drôle de frisson.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Je ne sais pas. J'ai une sensation bizarre. C'est comme si j'étais déjà venue ici. Mais c'est impossible. J'ai toujours vécu au château.
Les deux enfants poursuivent leur chemin le long de la rivière et le ciel se remplit peu à peu de nuages roses. Le bleu de la nuit s'étiole dans la brume et les oiseaux chantent le matin. Soudain, Leslin saute de joie.
Youhou !
Il a reconnu le frêne qui marque l'entrée de la clairière. Il court entre les buissons et Mao peine à le suivre. Elle relève la tête. Les voilà au milieu d'une gigantesque clairière. C'est comme un immense pré au beau milieu de la forêt. De petites cabanes au toit de chaume bordent la clairière et au centre, un feu crépite doucement entre des pierres. Une vieille femme est assise sur une souche d'arbre près du feu.
Ah, voilà Aélis ! C'est la plus vieille sorcière de la clairière !
Elle porte un vieux châle de laine et jette sur le sol de petits osselets. Les deux enfants s'approchent, mais elle ne semble pas les voir. Penchée sur ses osselets, elle marmonne d'étranges paroles.
« Coque fredouille, je ne suis pas folle. Il va se passer quelque chose d'inhabituel très bientôt. Une visiteuse venue du passé. »«
Bonjour, Alice !»
fait Leslie en direction de la vieille femme. Mais celle-ci ne relève pas la tête. Elle ramasse ses osselets et les jette une nouvelle fois.
« mais oui, tu Dieu, je vous créant qu'il va se passer quelque chose. »«
À Élise ?»
crie Leslie en se plantant devant la sorcière. Elle sursaute et se plie dans son châle.
« Mais je ne suis pas sourde, enfin. Que me veux-tu, maroufle ?»«
J'ai rencontré une fille dans la forêt. Elle vit avec les loups. C'est elle qui m'a accompagnée ici. J'étais complètement perdue. »
Élise se tourne vers Mao et plonge ses yeux gris dans les siens. Mao se sent alors comme traversée de part en part, mais elle soutient son regard. Elle a entendu tellement d'histoires sur les sorcières cruelles au pouvoir diabolique. Et pourtant, la vieille femme qui se tient devant elle la regarde avec une douceur qui lui réchauffe le cœur.
Tiens, tiens, ma devinance a encore marché. J'avais bien prédit qu'il allait se passer quelque chose. Bienvenue, ma petite. Quel est donc ton nom ?
Je m'appelle Mao.
Mao ? Morbleu, en voilà une surprise!
Un sourire mystérieux éclaire le visage d'Aélis. Elle ramasse ses osselets et s'éloigne en marmonnant. Mao, étonné, hausse les sourcils.
N'en prends pas ombrage. Aélis est parfois un peu bizarre. Viens, je vais te présenter à Liselda.
C'est ta mère?
Non, enfin oui. Enfin, pas vraiment. Je ne sais pas qui est ma mère. C'est comme si elles étaient toutes ma mère et celles des autres enfants. Liselda est la plus forte des sorcières. Elle connaît toutes les plantes de la forêt.
Mao commence à comprendre. Les sorcières sont simplement des femmes qui ont choisi de vivre à l'écart du village, au milieu de la nature. Elles connaissent de nombreuses plantes et vivent au rythme de la forêt. Leslie entraîne Mao dans une cabane. Des plantes pendent partout du plafond. Une jeune femme est agenouillée sur le sol et elle effeuille une grande tige grise sur un petit bout de tissu à ses pieds. Elle lève la tête.
Leslie, je me suis inquiétée. Je trouillais qu'il te soit arrivé une malaventure ou que tu te sois fait dévorer par les loups.
Je me suis perdue, mais j'ai rencontré Mao. Elle m'a aidée à retrouver mon chemin.
Liselda sourit à Mao et hoche la tête pour la remercier.
D'où viens-tu ?
De la forêt, enfin non, du château. Mais je me suis enfuie car ces gueux sont fourbes et vils. Et maintenant, je vis avec une meute de loups.
Liselda plisse les yeux.
Ainsi, c'est donc possible. J'avais entendu des histoires d'enfants recueillis par des loups, mais je pensais que ce n'était que des légendes, car les loups sont des créatures effrayantes.
Mao fronce les sourcils.
Non, non, ce sont juste des animaux qui ont faim ou qui se défendent. Mais les loups ne sont pas cruels ni assoiffés de sang. Au contraire, ils sont loyaux et braves. Ce qu'on raconte à leur sujet, ce n'est que battelage et baliverne. Ce sont les pièges que les gens du village leur tendent dans la forêt qui sont cruels.
Liselda sourit.
Tu les connais bien mieux que moi, et tu as sans doute raison. Venez vous asseoir et mangeaillons. Une bonne pitance nous fera du bien.
Elle leur sert une soupe dans des écuelles et des galettes épaisses qu'elle fait chauffer sur les braises. Mao se jette dessus. Elle qui ne mange que des racines et de la viande à moitié crue depuis des mois, elle se régale de la soupe de Liselda. Cette dernière la regarde avec attention et elle se met même à tourner bizarrement autour d'elle.
Cette petite tache que tu as dans le cou,
c'est une tache de naissance,
répond Mao la bouche pleine. Liselda pose doucement sa main sur son épaule.
Comment as-tu dit que tu t'appelais déjà ?
Mais Mao n'a pas le temps de répondre qu'un cri retentit dehors. Liselda se dresse sur ses pieds et ouvre en grand la porte de la cabane. Aélis se précipite à l'intérieur, les yeux écarquillés.
Les villageois, ils sont là, je les ai vus, ils arrivent. Dans leurs mains, des pieux, des fourches, ils nous ont encerclés.
Ah, les gueux, cela ne leur suffit pas de nous chasser, de nous menacer. Il faut qu'ils viennent jusqu'ici.
Mais pourquoi ?
Parce que nous sommes différentes. Et que nous voulons vivre libres, sans personne pour nous dire quoi faire ou penser. parce que nous sommes indépendantes. On fait de nous des êtres maléfiques et nos connaissances des plantes deviennent de la magie noire. Mais qu'à cela ne tienne. Ils veulent la bastaille, ils vont la voir. Montrons-leur à ces couards !
S'exclame Liselda en saisissant un arc posé sur le sol. Mao agrippe fermement sa lance. Elle pourrait s'enfuir. Après tout, ce n'est pas son histoire. Elle ne fait pas partie du clan des sorcières. Mais elle sait reconnaître une injustice et elle est prête à tout pour défendre les sorcières. Lesla empoigne une arbalète et tous sortent de la cabane. Les autres sorcières du clan sont dehors et elles se regroupent au centre de la clairière. Derrière les buissons pointent les armes des villageois. Mao balaye les abords de la clairière du regard. Ils sont partout. Nombreux. Très nombreux. Trop nombreux. Elles ne tiendront pas longtemps. Elle voit les premiers villageois qui approchent, un sourire mauvais sur leur visage. Un hurlement s'échappe de sa gorge et fait trembler les arbres de la clairière. Les villageois s'arrêtent et la regardent, pétrifiés.
« Mais qu'est-ce que tu fais ?»
s'étonne Leslin.
« J'appelle du renfort. »
Soudain, un hurlement lui répond au loin. Et un autre lui fait écho, et encore un autre. Mao saute de joie.
« La meute m'a entendu. Nous ne sommes pas seuls !»
Les villageois se regardent, l'air ahuri.
« Peste-toi de cette sorcière. Elle a appelé les loups. Vite !» « Fuyons ! Laissons ces folles d'ago ou les loups vont nous estrier !»
Et les voilà qui repartent en courant, effrayés. Mao sourit.
« On leur a fichu une sacrée frousse à ces cœurs de lapin. Je ne pense pas qu'ils reviennent avant un bon moment. »
Liselda la prend dans ses bras.
« Merci, Mao. Mille fois merci. »
Mao se sent comme réchauffée au contact de la sorcière. Elle pose sa tête au creux de son épaule. Et c'est alors qu'elle aperçoit une petite tache brune dans son cou, cachée sous ses longues boucles noires.
« Mais toi aussi, tu as une tache, comme moi !»
Liselda hoche la tête.
« Mao, je crois que je te connais. Je crois que tu es ma sœur. »
À ces mots, c'est comme si un voile se déchirait devant les yeux de Mao. Des souvenirs remontent comme dans un rêve. Elle a la tête qui tourne. Elle revoit la clairière et elle, bébé, qui joue près du feu. Les bras de Liselda qui la bercent. Les chansons d'Aélis. Et puis les villageois qui viennent enlever les enfants pour ne pas qu'ils soient élevés par des sorcières. Les écuries, Aubertin qui s'occupe d'elle. Et les souvenirs de la clairière qui s'effacent peu à peu pour être remplacés par sa nouvelle vie. Elle comprend pourquoi la forêt lui a semblé si familière tout ce temps. La vieille Aélis lui prend la main.
Tu te souviens maintenant ? J'ai su tout de suite que c'était toi. Les osselets l'avaient prédit.
Mao a à peine le temps de réaliser ce qui lui arrive, qu'un petit grognement qui vient des buissons la ramène à la réalité.
Mes frères et sœurs, bien sûr vous êtes venus.
Les sorcières, un peu effrayées, regardent Mao. Certaines partent en courant en direction de leur cabane. Mais Liselda les rappelle.
N'ayez crainte ! Mao connaît les loups, et ils ne sont pas plus dangereux que les sorcières,
ajoute-t-elle avec malice. Mao se lève et se glisse jusqu'à la meute qui l'attend derrière les arbres. Les loups et les loups se pressent autour d'elle, inquiets. Elle frotte son museau contre ceux de lune et de pluie. Il la regarde, l'air intrigué.
Oui, j'étais en danger, mais grâce à vous, c'est fini. Merci.
Elle caresse Trèfle qui pose sa patte sur son pied.
J'ai retrouvé ma famille, ma vraie famille. Je suis une sorcière, mais je suis aussi une louve maintenant. Et je ne vais pas vous abandonner.
Lune lui lèche la main et Mao s'accroupit en signe de respect. Elle en est certaine désormais. Sa vie est là, au cœur de la forêt, avec les louves, les loups et les sorcières. Elle sait que les deux clans ne vivront jamais ensemble. Ils se croiseront peut-être de temps en temps, mais elle devra partager sa vie entre la grotte et la clairière. Et pourtant, cela la rend heureuse. Elle se redresse et un long hurlement sort de sa gorge pour monter vers le soleil.